présence. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et dans ces moments, le Saint-Esprit m'a vraiment donné des choses à écrire. J'ai juste écrit. Et ce matin, je vous mets simplement au bénéfice de ce que le Saint-Esprit m'a dit, vraiment de manière très simple. Et c'est que des choses qu'on connaît déjà, que Stéphanie a déjà partagé tout à l'heure, notre chère Christelle aussi. Et vraiment que le Seigneur puisse vraiment faire son œuvre en nous, en chacun de nous. Et il y avait, comme je vous disais, une sorte de tristesse sur le Saint-Esprit, de la part du Saint-Esprit. Et j'avais ce mot, c'est « il y a plus ». Il y a plus, et ça revenait en boucle. Il y a plus, il y a plus. Il y a plus, il y a beaucoup plus. Et cet été, on a été frappé, en tout cas moi j'étais frappé par la nature désolée et l'absence de pluie qui a duré quand même presque un mois. Et on a vu petit à petit la nature s'éteindre, jaunir, noircir, mourir. Et parfois même des grands arbres qui sont là depuis des siècles presque, ou en tout cas des dizaines d'années. Et on a l'impression qu'ils, d'un coup, ils jettent l'éponge et ils meurent. En tout cas, leurs feuilles sont comme si elles étaient en automne. Ils passent dans un stade de dormance. Et voilà, c'est assez choquant. Et on a ce verset dans la Bible qui dit que la nature soupire après la création tout entière, soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et là, je trouvais que cet été, on sentait vraiment ces douleurs que la nature peut subir et peut souffrir. Et moi, j'étais vraiment dans une étape de prière pour la pluie, pour que la pluie arrive. Et il y a une urgence pour que la pluie arrive dans ces moments où il y a tellement un manque d'eau, mais si crucial. Et voilà, il y a une ferveur comme renouvelée pour que la pluie arrive. Et c'est vraiment une image que je voulais donner pour nos cœurs à chacun, qu'on soit dans l'attente de ce que Dieu veut faire. Il y a autre chose, il y a une pluie qui arrive. Et Olivier a parlé aussi de maladies, de choses qui durent. On peut voir des catastrophes. Et Jésus nous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et je crois que la nature avait vraiment très soif cet été. Et c'était vraiment l'image que je voulais vous donner, qu'elle était, que notre cœur soit assoiffé, comme cette nature qui était assoiffée, qui était si désireuse d'eau. Et l'eau est arrivée, Dieu merci. Mais il y a cette phrase de Jésus qui dit « si quelqu'un a soif ». Et « si », c'est une conjonction qui introduit une condition. Alors, « si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi ». Alors, est-ce que vous avez soif ce matin? C'est ma question. Est-ce que vous avez soif de plus, comme le Saint-Esprit nous invite vraiment à chercher plus? Est-ce que vous avez soif de plus? Parce qu'il y a plus. Il y a plus que la prêche du dimanche matin, comme disait Stéphanie, que la Sainte-Seine une fois par mois, que notre smartphone, que notre travail. Il y a plus que le feuillet quotidien qu'on peut lire tous les jours. Il y a plus même que, peut-être, même si c'est des bonnes choses, des rituels qu'on a de lecture de la Bible, on a notre chapitre, une fois qu'on a lu notre chapitre, bon ben, c'est bon pour entamer notre journée. Mais il y a plus que ça. Jésus dit, il y a bien plus. Si quelqu'un a soif, c'est pas qu'ils viennent au feuillet, mais qu'ils viennent à moi. Et le Seigneur nous invite chacun ce matin à lui. Et dans cette rentrée, qu'on puisse, comme nous a aussi invité Stéphanie, à dire Seigneur, je veux venir à toi. Je veux aller à toi uniquement. Et c'est vrai qu'on a mille choses à faire, on a mille engagements qui se lèvent, et ça met peut-être même parfois un peu le vertige. Mais Seigneur, dans tout cela, moi je veux juste être paisible et m'attendre à toi, être assoiffé de toi. Vous savez que Dieu est un Dieu jaloux. Et il se présente comme un époux, et comme un époux jaloux. Il est jaloux aussi du temps qu'on passe à faire autre chose qu'à être en sa présence. Il est jaloux du temps qu'on passe à aller peut-être sur des réseaux sociaux. Enfin, je dis ça parce que c'est vrai que c'est quand même assez facile de tomber dans ce genre de perte de temps. Et il est jaloux de tout ce temps-là qu'on dépense inutilement loin de sa présence. Et la nature est assoiffée. Et il y a aussi ce verset dans 1 Pierre 2,2 qui dit « Désirez ardemment le lait spirituel et pur comme des enfants nouveau-nés, afin que par lui vous croissiez. » Il y a quand même un désir ardent. Vous savez, les bébés, quand ils ont faim, ils ne nous laissent pas trop le choix. Hein. C'est maintenant, et si on ne répond pas, ils crient encore plus fort. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de désir, désirer ardemment. Est-ce qu'on est dans cette soif-là avec Dieu? Ou est-ce qu'on est dans une petite routine? Allez, je vais boire mon petit biberon, et puis après, je ferai un petit rot, et puis un gros dodo. Vous voyez ce que je veux dire? Non, le bébé, lui, il a faim, et il en veut plus, et il y a une croissance qui se lait entraîne une croissance, et donc, si on lui donne toujours la même dose de lait, et ben, à un moment donné, ça devient insuffisant. Et il y a besoin d'augmenter la quantité de lait. Et voilà, c'est vraiment l'aspiration que Dieu nous donne. Dans 1 Roi 18, c'est le moment où, justement, il y a eu une sécheresse aussi en Israël, où il y a eu 3 années de sécheresse, c'est encore pire que chez nous, mais suite à la parole d'Élie, il y a eu 3 années de sécheresse. Et c'est écrit dans 1 Roi 18, « Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Et il y a pas mal de péripéties, hein, parce que Élie, il en fait un petit peu quand même à sa tête. Mais au verset 42, c'est écrit « Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et il envoie son serviteur regarder jusqu'à ce que la pluie arrive. » Et il envoie, on sait qu'il y a 7 fois où il envoie son serviteur, il se passe rien pendant 6 fois. Et la 7e fois, enfin, la pluie arrive. Et c'est juste pour nous encourager à ne pas lâcher. C'est vrai que, comme disait Olivier, des fois, on peut être découragé. On passe du temps, on prie, on fait des choses, on jeûne, on se place devant Dieu, on se lève plus tôt, on met en place des choses, et puis, il ne se passe rien. Il y a comme la sécheresse qui est toujours là. Mais vraiment, je voudrais vous encourager ce matin, parce que Dieu dit, ce qui est assez fou, c'est que moi, je ne comprends pas pourquoi Élie, déjà, il va prier, parce que Dieu lui a dit... Va, présente-toi devant Achab et je ferai tomber de la pluie. On n'entend pas le. Il faut que tu pries, quoi. Vous voyez ? Mais pourtant, Élie, il se met devant Dieu et il prie jusqu'à ce que la pluie arrive. Et qu'on ait vraiment cette niaque d'aller jusqu'à ce que la pluie arrive. Qu'on ne lâche pas jusqu'à ce que notre prière soit exaucée. On ne doit pas s'arrêter. Enfin, je dis ça, mais je suis comme vous. Hein. On ne doit pas s'arrêter au ciel bleu. On veut s'arrêter quand le ciel est rempli de nuages et qu'il est prêt à exploser sous la pluie. Et il y a pas tellement d'exemples dans la Bible où des gens... prie jusqu'à l'accomplissement. Il y a Jésus, bien sûr, qui prie toute la nuit. Il y a Esther qui s'adresse à son roi et qui dit « Sauve-moi et sauve mon peuple ». Vous voyez, c'est des cris, c'est des déchirements. Il y a la mort qui est là. « Sauve-moi et sauve mon peuple ». Il y a Rachel, la femme de Jacob, qui dit « Donne-moi un enfant ou je meurs ». Enfin, cette prière, elle est horrible, quoi. « Donne-moi un enfant ou je meurs ». Vous sentez le désir ardent et le désespoir. Il n'y a pas d'autre solution. Soit tu me donnes un enfant, soit je meurs, quoi. Et elle préfère mourir que de ne pas enfanter. Il y a vraiment une soif qui est juste démesurée et dont on a besoin, en fait. Il y a aussi la femme cananéenne. Vous savez, c'est celle... qui a sa fille qui est cruellement tourmentée par des démons. C'est dans Matthieu 15, 22. Et à qui Jésus dit « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Et elle répond « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Elle est prête à manger les miettes qui tombent de la table. Est-ce qu'on est prêt, nous, à se jeter au sol et à manger les miettes de ce qu'on peut trouver donné par Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle est prête, même un petit peu, elle préfère un petit peu que rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle ne lâche pas. Il y a une ferveur à dire non, je ne lâcherai pas, même si c'est une miette, je l'aurai. Et Jésus va lui dire, ta foi est grande. Il y a plus, ce mot qui revient tout le temps. Celui qui cherche, trouve. Est-ce que vous avez trouvé ? Moi, dans bien de domaines, je n'ai pas trouvé. Et je continue à chercher. Est-ce que tu es satisfait de ce que tu as trouvé ? Est-ce que, tu es arrivé au niveau, tu te dis, bon, maintenant, je suis au top. Je m'arrête de grandir. Et voilà, merci Seigneur. Et des fois, on se contente de peu. On s'est habitué à juste avoir un petit peu. Et ça me faisait penser à cette femme dans 1 roi 17, 12. On est dans la famine et elle dit, elle prépare un gâteau pour elle et son fils. Nous mangeons et après quoi nous mourrons. Voilà. Ben, le schéma est fait. Elle n'a plus rien à manger. Elle mange et elle meurt. Vous voyez, elle se contente de peu. À ce moment-là, il y a Élie qui vient et qui dit, voilà, il y a le miracle qui prend place et on connaît la suite de l'histoire où Élie va la nourrir pendant des semaines, des mois, elle et toute sa famille. Et il y a plus que ce gâteau, que ce dernier gâteau, que cette mort, il y a plus que ça. Et le Seigneur a dit, je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Et comme cet été, c'était tellement le désert, je trouvais. Moi, j'avais l'impression de me retrouver en Afrique. J'ai grandi en Afrique et j'avais l'impression, en allant à Obena, d'être dans la savane, quoi. L'herbe toute grillée, les montagnes. Enfin, vraiment, c'était assez hallucinant. Et le Seigneur a dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Et voilà, c'est un désir du Seigneur qu'on soit abreuvé et qu'on ne soit pas dans cette sécheresse. Mais on a cette soif à avoir, il y a plus, à demander, à ne pas lâcher jusqu'à ce qu'on obtienne ce pourquoi on prie. Il y a encore cette histoire avec la famine d'Israël. Donc ça, c'est dans Genèse. C'est quand, vous savez, l'histoire avec Joseph. Joseph est en Égypte. Il y a la famine de partout, sauf en Égypte. Et Jacob ne veut pas envoyer son fils Benjamin, parce qu'il a déjà perdu son fils Jacob, Joseph, et du coup, il n'a pas envie de perdre, entre guillemets, à nouveau son fils bien-aimé Benjamin. Il a peur de le perdre, et du coup, il se restreint à ne pas manger. Vous voyez, il reste dans la famine. Il ne veut pas envoyer son fils Benjamin, parce qu'il a peur de le perdre. Mais à un moment donné, c'est écrit... puisqu'il le faut, c'est dans Genèse 43. Voilà, il dit, puisqu'il le faut, à un moment donné, il est obligé de céder, il n'a plus rien à manger. Voilà. Et c'est incroyable parce que souvent, on va attendre le dernier moment pour aller chercher la nourriture et la face de Dieu, la solution. Là-bas, il y avait son fils qu'il croyait mort. Je crois que le Seigneur veut qu'on soit... Dans cette attente-là, de ne pas avoir peur de perdre peut-être notre Benjamin, ce qu'on aime bien. Okay, il y a des moments où il faut qu'on lâche des choses pour obtenir des choses plus grandes. Il faut qu'on lâche des Benjamins, des choses qui sont chéries à notre cœur, qu'on couve. Ce Benjamin, c'était toute sa vie. Il a dit, mais s'il ne revient pas, s'il meurt, je vais partir dans le séjour des morts. Lui, c'était fini pour lui. Si Benjamin disparaissait, c'était fini. Mais à un moment donné, il a été prêt à lâcher ce Benjamin pour pouvoir vivre, parce que sinon, il allait mourir. Lui et Benjamin. Il y a aussi cette histoire d'Agar, on est toujours dans la sécheresse, d'Agar qui est renvoyée par Abraham avec son fils et qui pleure car son fils et elle sont en train de mourir dans le désert. Et son fils a soif et c'est écrit que Dieu entend les pleurs de l'enfant. Dieu entendit les pleurs de l'enfant. Et moi, cette histoire, elle me touche parce qu'en fait, Dieu entend les pleurs de nos enfants, qu'ils font parfois même dans le secret. Nous, on est dépassés par une situation, mais Dieu entend les pleurs des enfants. Et en fait, c'est écrit, il n'ouvre pas les yeux à l'enfant, mais il ouvre les yeux à la maman. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau qui était juste à côté d'elle, en fait. Il y avait juste un puits à côté d'elle. Elle était en train de mourir de soif à côté de ce puits. Et c'est fou de se dire quand même que on peut mourir à côté d'une source d'eau, vous voyez. Et ce qui est fou, c'est que de se rendre compte qu'on a besoin que le Seigneur ouvre nos yeux pour accéder au puits. Et nous, on pourrait faire, peut-être qu'elle a dû chercher, j'imagine qu'elle n'est pas non plus stupide, elle a cherché ce puits, elle ne l'a pas trouvé. Elle était juste à côté, mais elle ne l'a pas trouvé. Il a fallu que Dieu lui ouvre les yeux pour qu'elle ait accès à ce puits. Et combien on a besoin que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. Parce que sinon, on peut rester à côté de la vie tout en étant mort et mourir, en fait, à côté d'un lieu de vie. Et ça me rappelle un exemple dans ma vie perso où j'avais été guéri de l'asthme, l'eczéma, il y a 4 ans, 4 ans et demi, je crois, maintenant. Et C'était en décembre que j'avais été guéri, décembre et janvier, pour l'eczéma. Et en septembre de l'année d'après, j'ai commencé à avoir à nouveau de l'eczéma qui revenait. Et ça s'est passé d'abord sur mes mollets, j'avais de l'eczéma qui venait. Là. Et c'est assez embêtant l'eczéma, on ne peut pas s'empêcher de se gratter. Et ça en est venu où j'étais vraiment en sang au niveau des mollets. Et à ce moment-là, j'ai prié bien sûr plein de fois, hein, mais j'ai demandé à mes enfants de prier pour moi. Et les enfants, ils prient d'une manière tellement simple. Merci parce que tu guéris papa. Et après, on mange quoi sinon ce soir? Vous voyez, c'est vraiment... voilà, mais j'étais guéri. Voilà, j'étais guéri. L'eczéma est parti de là. Il est venu sous les genoux. Pareil, j'ai laissé s'installer petit à petit. Bon, cela, je vous le dis, ça s'est fait en quelques semaines. Hein. Donc voilà. Et en gros, ce que je veux vous dire, c'est que l'eczéma a circulé dans mon corps. Et en fait, les enfants, à chaque fois, ils priaient pour moi. Et ça partait et ça allait ailleurs. Donc c'est parti du genou, c'est arrivé dans le creux des mains. Et une fois que c'est parti du creux des mains, c'est arrivé là. J'avais une tache énorme d'eczéma ici. Et moi, je ne comprenais pas dans ma relation avec Dieu. Je disais, mais Seigneur, mais tu m'as guéri. Et puis là, maintenant, je suis malade. Je dis, mais je ne comprends pas. Enfin, c'est quoi pourquoi je suis à nouveau malade? Enfin, je ne comprends pas le but. C'est quoi? Il y a une leçon derrière, tout ça. Et en fait, le Seigneur m'a parlé pendant tout un mois d'orgueil. Notamment, du coup, par rapport à la maladie. Et il m'a montré combien, en fait, je m'étais enorgueilli, pensant que... peut-être j'étais meilleur ou j'avais mieux compris les choses que d'autres, vous savez, par rapport à la guérison. Et du fait que j'ai été guéri, je me disais, mais je ne comprends pas pourquoi ils ne prient pas, ils ne sont pas guéris. Enfin, ça coule de source. Et en fait, j'ai réalisé à ce moment-là que si Dieu ne nous ouvre pas les yeux, on n'accède pas aux choses. Vous voyez ? Et à ce moment-là, j'ai demandé pardon au Seigneur d'avoir pensé que j'étais pour quelque chose dans cette guérison, mais en fait, de réaliser que sans lui, je ne peux rien faire. Sans lui, je ne peux pas accéder à cela. J'ai demandé au Seigneur pardon pour cet orgueil. Et ce qui est fou, c'est que j'en ai témoigné à une de mes collègues de travail, avec qui je parlais beaucoup. Et je lui ai dit, ben, c'est incroyable, je viens de réaliser que j'étais orgueilleux. J'avais de l'orgueil parce que je pensais que j'avais mieux compris les choses que les autres et tout ça. Et je suis sûr maintenant que je vais être guéri. Et dans la semaine même, ma tâche a disparu. Et ce qui est incroyable, c'est que j'étais tellement convaincu que j'avais laissé ça de côté. Et c'est elle qui m'a dit, mais Jonathan, ta tâche a disparu. Et j'ai trouvé ça tellement bon et beau de voir que ouais, ben Dieu, il montre aussi à ceux qui nous entourent combien il agit. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport à Agar, par rapport à moi, si le Saint-Esprit ne nous ouvre pas les yeux, si le Saint-Esprit ne vient pas nous donner un réma, une vérité, on peut passer et lire la Bible, bien sincèrement, mais passer à côté de Dieu. Et j'avais vraiment cette... cette volonté de parler du Saint-Esprit, du coup, c'est tellement puissant ce que le Saint-Esprit nous apprend, parce que c'est écrit dans la Bible que quand Jésus s'en va, il dit l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et vous voyez, moi, si je m'étais pas laissé conduire par le Saint-Esprit, j'aurais pu garder mon orgueil, garder ma maladie. En tout cas, dans mon cas, c'était ça. Il vous conduira. Le Saint-Esprit vous conduira. Et du coup, après la question, est-ce que vous avez soif? C'est la question, est-ce que vous vous laissez conduire? Elle en a parlé aussi, Stéphanie, tout à l'heure. Par qui est-ce que vous voulez vous laisser conduire? Est-ce que ça peut être par nos raisonnements, qui sont parfois très bons aussi, hein? On peut être conduit par des événements, parce que les hommes nous disent... On peut être conduit par la colère. On peut prendre des décisions sous l'effet de la peur. On peut être conduit par ce que les autres pensent, parce que les autres attendent de nous pour plaire aux autres. On peut être conduit par notre compte en banque, parce qu'il n'y a pas grand-chose, et du coup, on va prendre des décisions. Ou au contraire, on a beaucoup de choses, et du coup, on va prendre aussi des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes. Et qui est-ce qui vous conduit, du coup? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vous conduit? Et on a souvent ce chant, quand on le chante, on ne l'a pas chanté ce matin, mais « Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. » Et moi, j'ai le sentiment des fois qu'on dit « Je te donne tout », mais enfin, plutôt ce qui reste, vous voyez? Parce que quand on regarde vraiment dans le tout, il ne reste pas grand-chose. L'agenda est déjà tellement rempli, des fois même sur une année complète, la journée, c'est bon, on a tous nos rendez-vous, on n'a plus aucune place pour le Saint-Esprit. pour juste l'écouter et le laisser nous diriger. On dit, je te donne tout, mais dans le fond, ben, il n'a plus beaucoup de place. Du coup, on se pose la question, est-ce qu'on est conduit par l'esprit ou est-ce qu'on est conduit par ce qu'on pense, par ce qu'on vit tous les jours, ainsi de suite. Voyez. Et pourtant, c'est tellement important. La Bible nous dit dans Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Conduits par l'esprit, il n'y a pas d'autre alternative. Et je peux vous dire qu'il y a de l'inconfort à être conduit par l'esprit parce qu'on ne maîtrise pas. Et nous, on aime bien maîtriser. On aime bien... Il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je suis hyper organisé, hyper carré, il n'y a pas un cheveu qui dépasse, voilà. Mais en fait, c'est bien. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas être organisé, mais on a quand même besoin, dans cette organisation, de mettre le Saint-Esprit dans notre organisation et de mettre Saint-Esprit. Est-ce que vraiment, dans cette journée, tu veux que je fasse tout ce qui est, voilà, tout ce qui est prévu, ou est-ce qu'il y a des inattendus que toi, tu veux que je fasse? Et ce que j'aime bien, c'est aussi le verset dans Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Vous voyez, il y a vraiment une notion de ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu. Ben, on ne sait pas vraiment où ils vont. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas noté, mais Élie, quand il vient annoncer à un des serviteurs de... comment il s'appelle, le roi Akab, merci. Quand il vient annoncer à un serviteur d'Akab, le serviteur lui dit, non mais attends, mais toi tu vas encore partir, disparaître, je ne sais où, conduit par l'esprit. Vous voyez, et en fait il avait l'habitude que le prophète soit toujours par moi et par vous, parce qu'il était conduit par l'esprit. Et du coup Élie le rassure, il dit, non, je vais venir aujourd'hui voir Akab. Et donc il y a cette notion là de, quand on est conduit par l'esprit, eh ben, on doit être soumis à une sorte j'ai envie de dire, d'intemporalité. On va partir, peut-être qu'on a quelque chose de prévu, mais laissons-nous et restons sensibles à ce que le Saint-Esprit veut faire au travers de nous, tout autour de nous. Voyez, et peut-être qu'effectivement, on va arriver en retard. Et je peux vous dire que, en lisant, du coup, en me posant sur le problème de cette le vent souffle où il veut, on a ces questions qui sont posées à Jésus. Sa mère, qui lui dit, mais où étais-tu ? Pourquoi tu agis de la sorte avec nous ? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Pourquoi me cherchez-vous ? Il dit Jésus. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ? Dans Jean 7, 11, les Juifs le cherchaient pendant la fête. Ils disaient, mais où est-il ? Marc 1, 36, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à le rechercher. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Vous voyez, j'ai l'impression que Jésus, on passait son temps à le chercher, en fait. Et pourquoi ? Parce qu'il était conduit par l'Esprit. On peut dire qu'il avait quand même une mission énorme, sauver le monde. Mais dans cette mission, ben, conduit par l'Esprit, il a fait plein de virages. Pouf, pouf. Et tous le cherchaient. Mais en fait, ben, lui, il ne faisait qu'écouter la voix du Saint-Esprit et aller vers le peuple qui en avait besoin, vers la personne qui en avait besoin. Parce que des fois, on peut se diriger vers la foule, mais aussi vers juste une personne. Et c'était vraiment le cœur de Jésus. Et je continue, mais on peut en lire 50, hein, mais Luc 8, 40, à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et Marie même, au tombeau, elle cherche Jésus. Je trouve trop fort aussi. Elle cherche Jésus, parce que encore une fois, ben, le Saint-Esprit claque. Il a ressuscité des morts, il n'est plus là où il était. Il n'est plus là où il était supposé être, dans le tombeau. Non, il était sorti. Et vraiment, je ne vous invite pas à arriver en retard, mais je vous invite à écouter le Saint-Esprit. Et peut-être, oui, vous arriverez en retard. Peut-être que vous poserez des vents, comme Jésus, à des personnes. Mais est-ce que c'est vraiment le plus important d'être à l'heure, bien coiffé, bien rangé, tout ça ? Ou est-ce que le plus important, ce n'est pas qu'une âme soit sauvée ? Et qu'une âme passe du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et c'était ça le challenge de Jésus. C'était ça la mission de Jésus, le cœur de Jésus. Il était ému de compassion pour ces personnes qui l'entouraient. Vous voyez, il n'était pas dans son agenda, même si c'était important. Et il y a aussi l'exemple de Joseph. Et là, je trouve ça hallucinant de voir comment il est conduit. Lui aussi, d'abord, va en Égypte. il va en Égypte avec Jésus et Marie. Puis ensuite, retourne dans le pays d'Israël. Il retourne dans le pays d'Israël. Il y a une obéissance à chaque fois. Enfin, c'est pas des petits voyages quand même. Hein. C'est les voyages qui lui coûtent de l'argent. Il doit abandonner ceux avec qui il est, son travail, ses engagements peut-être. Il avait une commande de table, je ne sais quoi moi. Et en fait, hop, il est obligé de tout arrêter pour écouter ce que l'ange lui dit et partir. Il y a vraiment une obéissance. Et je crois que pourquoi ils ont été choisis, Marie et Joseph, c'est qu'ils étaient obéissants. C'était pas peut-être les plus grands cerveaux de la terre ou ceux qui avaient fait le plus d'études. Vous voyez, non, ils étaient obéissants. Et Marie, elle dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle était obéissante. Vous voyez, Dieu cherche des cœurs obéissants. Et que dans cette nouvelle année qui commence, dans ces nouveaux challenges qui sont devant nous, qu'on soit obéissant. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut vraiment que je fasse? Vous voyez? Et des fois, on a pris une décision et on s'avance, et peut-être que le Saint-Esprit va dire non, c'est pas le bon endroit, c'est pas là que je te veux. Okay? Ou au contraire, va dans telle direction. On va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et du coup, je reviens sur ma question, c'est est-ce que tu as soif de plus, comme cette nature qui était désespérée d'avoir une goutte d'eau, comme cette Rachel qui a dit « Donne-moi un enfant ou je meurs », comme cette dame qui a voulu même une miette, okay, mais elle ne voulait pas lâcher. Est-ce que vous voulez plus? Ou est-ce qu'on repart dans une année? Parce que moi, c'est le sentiment que j'avais. Hop, on repart les trucs et les rendez-vous, et ça y est, les clients, les trucs. Hop, on est à Noël, on est en juin, et c'est l'été, on part en vacances. Oui, c'est un cercle sans fin. Mais est-ce que vous avez soif de plus dans ce cercle sans fin? Et en cette rentrée, que ce soit notre soif qui détermine les choses, et pas l'inverse, les différents engagements qu'on a qui déterminent les choses. Il y a ce verset, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Et si mon peuple s'humilie, voilà, je crois qu'on a vraiment besoin de s'humilier, parce qu'on est bien souvent, comme moi tout à l'heure, trop orgueilleux, pour dire « Seigneur, on a besoin de toi. On a soif de voir ta gloire, mais des fois, on n'est pas prêt à en payer le prix. On n'est pas prêt à aller prendre du temps dans la présence de Dieu. » Parce que le Saint-Esprit ne peut pas nous conduire si on ne le connaît pas. Vous voyez, ça ne se fait pas comme ça, quoi. On a besoin d'une intimité avec le Saint-Esprit pour pouvoir entendre sa voix, pour pouvoir connaître sa voix. Et cette intimité, eh ben, il faut la chercher. Oui, le salut est gratuit, mais l'intimité avec le Saint-Esprit, eh ben, pour être intime avec quelqu'un, il faut passer du temps avec lui. Et c'est une invitation, comme a dit Steph encore tout à l'heure, qui est là devant nous, en cette rentrée. Plus de temps. J'ai soif de toi. J'ai soif de plus. J'ai soif de... Ouais, comme je pensais cette semaine, des montagnes qui sont là depuis des années. Des géants qui nous affrontent depuis des années, ben, j'ai soif de les voir poser le genou à terre, qu'on puisse leur couper la tête et en finir avec ces géants. Voyez, j'ai soif de plus. Demandons pardon au Saint-Esprit aussi pour toutes les fois où on n'a pas laissé le Saint-Esprit nous diriger, ou toutes les fois où on s'est dirigé par nous-mêmes. C'est peut-être vraiment ultra simple ce que je vous dis ce matin, mais je sentais vraiment un fardeau de la part du Saint-Esprit sur « il y a plus ». Et comme si, en fait, on passait complètement à côté de ce plus, comme Agar qui est en train de mourir à côté de son puits. Ben, ce matin, je vous invite vraiment à plus, à chercher, à écouter le Saint-Esprit. Il y a une urgence, en fait. Vous savez, on voit que les choses se précipitent. La vie, on a l'impression que ça s'accélère. Le péché grandit et on a tellement de défis tous les jours devant nous. Si maintenant on n'a pas cette relation d'intimité, de profondeur avec le Saint-Esprit, ben je pense qu'on va être comme ces vierges folles qui vont passer à côté du coche. Vous voyez ce que je veux dire? Elles vont dire, mais mince, on n'a plus d'huile, quoi. Vous voyez? Ou comme ces gens à qui Jésus dit, mais Seigneur, on a fait plein de choses pour toi. On a, On a guéri les malades. Non, mais je ne vous connais pas. Vous voyez, on fait des choses pour Dieu, mais pas avec Dieu. Et voilà, que le Saint-Esprit soit vraiment dans notre cœur, qu'on puisse l'écouter et qu'on puisse faire les bons choix dans cette année. J'avais aussi, très rapidement sur le cœur, à cœur de ce commandement nouveau que Jésus nous donne. Aimez non pas en parole, mais en action, mais pardon, c'était pas celui que je voulais dire. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous voyez, parce que jusque-là, c'était tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais là, c'est maintenant aimez-vous les uns les autres. C'est pas que réservé aux hommes et à leur épouse, mais c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et Olivier parlait tout à l'heure de l'amour de Jésus et de ce qu'il a affronté à la croix. Et cet amour est si grand. Et en fait, le Seigneur nous donne ce standard-là d'amour pour les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et peut-être que j'aimerais bien qu'on se lève ce matin. Je voudrais, peut-être que vous ne savez pas comment Dieu vous a aimé. Alors juste lire un petit passage. C'est dans Matthieu au chapitre 26. Jésus est déjà parti de son ciel, il était roi. Il faut se dire qu'il était roi tout-puissant. Il a tout quitté pour venir nous chercher et nous sauver. Et en fait, dans les actions très concrètes, déjà, je me disais ce matin, mais quand Jésus s'est levé, le matin même où il devait affronter la croix, on imagine les angoisses, là, étaient tellement énormes. Et donc, Matthieu 26, 67, là-dessus, ils lui crachèrent au visage. Ils lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé ?» Et un peu plus loin, il fut battu de verges. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, il le traitait en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sa tête. Ensuite, il y a toute l'étape de la crucifixion. Mais je voulais vraiment vous rappeler cet amour que Dieu a eu pour vous. Et c'est ce standard-là que Dieu demande pour nous. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Et j'aimerais bien ce matin qu'on... Limite qu'on puisse prendre 2 minutes peut-être. Je casse un peu ce que j'avais sur le cœur, mais qu'on puisse prendre 2 minutes et se tourner vers quelqu'un. D'abord, penser vraiment à cet amour de Christ et se tourner vers quelqu'un, pas son épouse, pas forcément son meilleur ami, mais se tourner vers quelqu'un et le prendre dans ses bras et dire voilà. C'est comme ça que Dieu t'aime. Qu'on puisse penser à l'amour que Dieu a pour nous, à tout ce qu'il a subi pour nous, et qu'on puisse aller vers quelqu'un, parce que c'est le commandement. Je ne sais pas si vous remarquez, mais il dit « Aimez-vous les uns les autres ». C'est un commandement. C'est pas, ce serait bien que vous vous aimiez. Moi, je trouve ça bizarre qu'on dise à quelqu'un, comme je disais, « Pierre, aime ta femme ». Ben non, mais c'est bon. Enfin, vous voyez. Mais là, c'est un commandement. « Aimez-vous », c'est un ordre. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et du coup, ce matin, j'aimerais que vous preniez là 30 secondes le temps pour méditer sur l'amour de Dieu. Et ensuite, que vous tourniez vers quelqu'un et qu'on prenne, Christelle, peut-être tu peux venir au piano, qu'on prenne 2 minutes, 30 secondes de réflexion et 2 minutes pour aller trouver quelqu'un et pour lui l'étreindre comme si c'était Dieu, comme si c'était Jésus, pour lui manifester l'amour que Jésus a pour lui. Prenez ce temps. Rentrez en vous-même. Comment Dieu m'aime? Comment Dieu m'aime? Et ensuite, prenez une personne, homme avec homme, femme avec femme, pour lui révéler comment Dieu l'aime. Élevez votre standard au standard de Jésus. Élevons notre standard au standard de Jésus. Allez-y, je vous engage à vous tourner vers quelqu'un. Prenez, regardez pas ce que font les autres ou quoi, mais aimons-nous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous sincèrement, aimez-vous vraiment, serrez-vous, comme Dieu, comme Jésus vous a aimé. Ne soyez pas gênés de le faire. Jésus n'a pas été gêné d'être nu sur la croix.